La Barge Russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck. Russe 1057, la toile occidentale. Alors c'est un titre assez ambigu, vous allez voir pourquoi. Donc, la vie en société moderne occidentale rattrape, par le dégoût qu'elle propose aux autres, qu'elle peut proposer aux autres, un dégoût, alors il faut voir l'Occident, là, cette la société moderne occidentale, dans le sens de ben, ça apporte le confort, se profiter plus aisément. Donc, le confort de certains peut apporter le dégoût pour les autres. Et chacun va regarder l'autre, chose qu'il ne faut absolument pas faire, se comparer aux autres. En tout cas, bon, ça, c'est la société moderne occidentale qui l'a emporté aussi, quoi que ce soit quand même bien humain. Donc, par dégoût qu'elle propose aux autres. Bon, notamment. Et via l'argent. Voilà. J'avais pas fini, virgule, via l'argent. C'est par l'argent, en fait. Profiter d'être dans un confort, d'avoir un statut social plus élevé, d'avoir eu l'intelligence ou la possibilité plus facilement de faire des études. Mais pas que, parce que c'est pas parce que tu fais des études que tu vas avoir un boulot. Non. Faut faire des études et après, il faut bien se démarquer dans les études que tu fais. Ou alors, il faut avoir déjà une personnalité et déjà ne pas, plus pas être un individu quelconque. Lambda. Je pense. Je pense que je suis quasiment sûr. On vit à l'argent et le pouvoir. Sa neutralité à l'argent se déporte le plus souvent vers le mauvais. Le mauvais escient, le mauvaise partie humaine. On peut peut-être convoité, échange, apparence, inégalité, pour des inégalités, etc., etc., en fonction de tout ceci. Revenons un peu plus précisément sur un détail, peut-être, oui, bien sûr. A-t-il un œil à mi-ouvert, l'autre bien en grandeur, un peu comme Colombo, oui. Laissez mon système de Aaron Nimzowitsch, un Ruskov, qui fut sorti en Russie en 1925, portant sur le jeu d'échecs et tous ces systèmes, ces stratégies, ces stratagèmes. J'aime moi-même beaucoup les échecs. Oui. Alors, quel personnage John Tibbeck incarne? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être bien, encore une fois, le professeur Schmidli. Oui, le voici revenu. Non seulement il aime Nietzsche, il a fait une thèse sur Nietzsche. Merci, professeur Schmidli. Non seulement j'ai fait une thèse sur Nietzsche. Pardon. Voilà. J'ai aussi beaucoup passé de temps devant les écrans de cinéma, le film, le cinéma, j'aime énormément ça. Et bien sûr, les échecs. On va parler de cette folie, cette passion que j'ai pour le jeu d'échecs aussi. Merci, Johnny Tufbeck. Oui, je vous en prie. Vas-y, c'est à vous, professeur Schmidli. Oui, donc voilà. Aaron Nimzowitsch, oui, grand joueur d'échecs, en 1925 sorti un essai, Mon système, portant sur le jeu d'échecs, il en va de soi, et les parallèles à la portée existentielle et la logique. Ce n'est pas des stratégies, faire ceci, faire comme ça, pour ceci, pour ça, non, pour cela. Non, c'est plus une phase pour qui que ce soit, pouvoir lire ce livre et accompagner pas le débutant, mais le joueur, quoi, quelconque, à comprendre le jeu de l'autre, s'infiltrer. C'est un jeu d'infiltration, un combat. J'aime pas trop un jeu d'infiltration, de stratégie, oui, c'est ça. Le développement du jeu comme un reflet de la société. Voilà ce qu'explique Aaron Nimzowitsch. Et et cet essai est à considérer comme une phénoménologie du jeu d'échecs. C'est fantastique. Système. Système, je répète, système à Aaron Nimzowitsch. Merci Johnny Tickbeck de me laisser la parole, mais je vous en prie, professeur Schmilby. Merci beaucoup. Le coup de pion, c'est toujours selon Nimzowitsch, mais c'est réel, c'est vrai. Le coup de pion, n'est-ce pas, n'est pas un coup de développement, ni en soi, ni pour soi. Non. Ça va au-delà de ça. Ça transparaît. L'échange de mouvement entre les deux joueurs, n'est-ce pas, le noir et le blanc, peut mener à attirer, afin de contrôler le jeu, attirer des pièces dans un endroit plutôt qu'un autre, afin de mener une stratégie, venir à bout de sa stratégie, comme je disais, ou encore afin de gagner du temps. Le temps peut être une prémisse assez importante. Oui. Bloquer une action stratégique de son adversaire. Le joueur, il y a les deux joueurs. Et, tiens, le mec est en pleine stratégie. Un joueur est en pleine stratégie. Le blanc, par exemple, en pleine stratégie. Et la couleur noire arrive et vient bloquer sa stratégie. Là, il y aura, dans la raison du joueur blanc, ça vient réveiller en lui, il faut, c'est pas assez de jeu d'échecs, que ça vienne réveiller en lui une autre stratégie. Il doit se réorienter vers ses arrières afin de redonner une nouvelle attaque possible, une nouvelle stratégie possible. C'est pas... c'est très bien. Merci beaucoup, professeur Schmilby. On va s'arrêter là. C'est très bien pour la suite de la chronique. Merci beaucoup, professeur Schmilby. On va donc écouter maintenant If Six Was Nine de Jimi Hendrix. Si le 6 c'était le 9, tu vois, on sait comment ça s'écrit, mais imagine, c'est à l'envers, c'est inversé. Si le réel était l'inverse. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. No, but soon my kind of drop and die. I'm gonna wave my freak flag.
When it's time for me to die, so let me live my life the way I want to. sing on, brother. Play on.
Le 6 était le 9, que tout était inversé, que la réalité était le côté invisible.
All right, here he goes, here he comes, here he goes.
Donc, les studios Warner Bros, vous savez, c'est eux qui ont fait Roger Rabbit, par exemple, mais ils ont fait plein d'autres films qui sont géniaux, des très bons films, mais là, sous le titre Red Son 2020. En fait, c'est Superman, mais russe. C'est super. C'est super. Encore faut-il avoir un œil assez critique. Parce que bon, c'est super pour les Américains. Forcément. Et ça va pas être super pour les Russes. Hein. Forcément aussi. C'est... j'ai pris des notes. Ça commence avec Staline. Et puis Superman, il est magnifié par Staline. Oh, il est super, c'est le plus fort, Superman. Bon, d'accord. Il est russe, hein, donc il y a la guerre froide quand même. Hein, mais bon, Staline dit que c'est le plus fort et tout. Et donc Superman, il est un peu neuneux. Enfin, il n'est pas neuneux, au contraire, il est très très intelligent. Mais il voit pas, il devine pas qu'il y a des horreurs sur Terre, quoi. Et puis... Donc les Américains, forcément, c'est les méchants. Et puis en fait, il s'aperçoit, il finit par tuer Staline. Superman tue Staline parce qu'il voit les goulags, les horreurs que Staline fait vivre à son peuple, des assassinats, etc. Et il voit tout ça et donc il se décide de tuer Staline avec ses yeux rouges. Laser, là. Il tue Staline. Bon, d'accord. Après, donc, en 61, par rapport au mur de Berlin. Alors, le mur de Berlin est construit par les Américains pour ne pas... Parce qu'en fait, il y a une expansion de la politique communiste, quoi. Et les Américains, ils disent, oh non, attends, il faut pas que ça vienne chez nous, quoi. Il faut pas que ça vienne en Occident, parce que c'est fini. Donc, c'est les Américains qui montent le mur. Le mur de Berlin, c'est eux qui le montent. Et donc là, il y a, comment il s'appelle, le Superman russe qui arrive, qui débarque, et boah, il détruit tout d'un seul coup. Donc là, on est en 61, le Superman russe, comme je vous dis, il casse tout, il veut pas de mur, il veut que, au contraire, ce qui est vrai, que le communisme soit partout sur la planète, qui est une idéologie, le communisme, hein, il faut pas l'oublier. Les lendemains, j'ai noté, ils parlent des lendemains qui chantent selon Karl Marx, ils en parlent dans le truc, donc je sais pas trop ce que... Donc les États-Unis, ils créent à un moment aussi le Supreme Man pour venir à bout du Superman. Donc ils créent un mec qui vole dans le ciel et puis en fait ils le gonflent avec des trucs électriques afin qu'il soit assez fort pour battre Superman. Mais Superman l'écrase. Bon, après, en 66, il y a Batman en Russie qui arrive. Et Batman, vous savez, c'est pas un super-héros, lui. Enfin, c'est un super-héros, mais il est... C'est un humain, quoi. Mais par contre, Batman, là-dedans, il est méchant. Il est contre toute l'idée... politique, parce qu'après, Superman, russe, c'est le premier secrétaire. C'est le président, quoi. Russe, si on veut. Et... qui tue tout le monde, qui tue ce gars. On peut penser à Poutine un petit peu. Bref, c'est sûrement des petites références comme ça que Warner a voulu donner, parce que c'est 2020. Et donc, le Batman, il est méchant, il est contre le système communiste russe. Donc, je dis, bon, c'est louche, c'est pas louche. Bon. Et le Superman russe n'est pas content, parce que Batman est un terroriste. Mais comme l'idéologie communiste oblige, il le pardonne. Il dit, non, il faut que tu sois d'accord, je te pardonne et maintenant tu vas faire partie de... pour que ça grossisse, quoi. Bon. Alors bon, Batman, il dit, ok. Donc il a franchi les sbires aussi de Batman, parce qu'il n'était pas tout seul. Et il y a même la Wonder Woman russe, Diane. J'ai jamais vu le film, la série quand j'avais à la télé quand j'étais tout petit. Alors qui sauve des enfants, qui est merveilleuse. Donc pour continuer, Nevada 1967, JFK est encore en vie. Oui, parce que bon. Il n'y a peut-être pas de guerre au Vietnam, quoi. Tu vois, on sait pas. Bon, bref, Nevada 67, JFK est encore en vie. Ils ont retrouvé un ovni. Donc ça fait un peu écho à Roswell de 47. Et donc là, l'utopie prend corps. L'URSS, l'avènement... Enfin, c'est pas là-dessus que l'utopie prend corps, mais bon, en même temps, dans le dessin animé, l'URSS... avènement d'un monde parfait, perfection humaine, pas voulu de l'extérieur, sans pas voulu par l'extérieur sans volonté, mais de l'intérieur et sa volonté. Une perfection humaine qui, quand t'es pas à l'intérieur du pays russe, tu n'as pas la volonté. Là, on peut, c'est sans volonté. Là, on peut voir Schopenhauer, comme j'ai vu hier, on a pu voir hier. C'est pas voulu de l'extérieur. Donc, il n'y a pas de volonté. Mais vu de l'intérieur, en tant que russe, il y a une volonté pour cette perfection humaine. Et cette expansion de la politique russe, parce que c'est merveilleux. Mais il faut être dedans. Et vu de l'extérieur, on n'a aucune volonté. Donc, ça ne marche pas, quoi. Schopenhauer, berge russe précédente. Donc, établissement d'un monde parfait, ça se fait. Parce que vu que Superman, il est russe, et que c'est le premier ministre du communiste, ça grossit, quoi. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils les explosent, quoi. Donc, le Superman russe plus Staline font le monde comme ils le souhaitent. C'est ça ce que les Américains, Warner en fait, proposent. En fait, Lex Luthor, vous savez, le grand ennemi de Superman, du vrai, enfin du truc américain, quoi, et c'est Lex Luthor. Et là, Lex Luthor, lui, c'est le président, et c'est un mec bien, tu vois, dans le film. Forcément, si Superman, c'est le russe, Lex Luthor, c'est le bien, c'est l'américain qui est bien, quoi, qui est président de la République. Oui, c'est pas pour ça qu'ils sont tous bien, les présidents de la République, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est dans le dessin animé, c'est ça qui est soulevé. Le Superman russe plus Staline font le monde comme ils l'ont souhaité, comme ils le souhaitaient, et au contraire, les États-Unis, eux, selon moi, en fait, ils créent une dépendance afin de contrôler. Pour qu'on les aime. Bon, c'est vrai, d'accord, moi je suis très bien en Occident, hein. Je suis très bien en France, mais l'Amérique, C'est le titre de la Bargerus, hein. La toile d'araignée, la toile occidentale, c'est ambigu. Parce que c'est aussi c'est même la toile mondiale, je veux dire. C'est pas occidental, c'est pas que, en tout cas. Mais on se fait contrôler. Donc Superman russe veut aider, pour aider son pays, pour aider pour le bien de son Lego City, quoi. Où tout est parfait, tout est génial. C'est ça, en fait, qu'il a. Il a vraiment la vision platonicienne. Tout est parfait, c'est ça qu'il veut dans le monde entier. Il veut un monde comme il pense, mais c'est pas possible, on le sait. Les États-Unis le savent aussi. Mais après, là-dessus, il y a tout un esprit de contrôle, les États-Unis là-dessus. Alors que Superman ne l'a pas, cette idée-là, le Superman russe. C'est pas du tout ça. Il pense que c'est une idéologie, quoi. Un peu comme Glucksmann. Il pense gros. Il pense pas que les gens sont différents, quoi. Tu vois? En gros, que des choses peuvent passer par la tête et que tout peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Page numéro 2. Alors, avant ça, on va écouter Jaded, The Contortion and James Chant. C'est une compil que j'ai. C'est Brian Eno qui l'avait faite. C'est No New York. Donc, c'est le post-punk new-yorkais. Thank you. Alors, maintenant, on passe à la deuxième partie, en fait, du dessin animé, l'élection de Lex Luthor, qui est mariée à Lois Lane. Lois Lane, elle, qui est dans Superman, la copine de Superman. Et donc, démocratie florissante pour le capitalisme, parce que, bon, ça commence à battre de l'aile un peu pour les Ruskov, pour le Superman russe. Bon, monde meilleur américain qui est proposé, qui dépasse le mono-gouverneur, si on peut dire, de l'état parfait de Superman russe. Et les Russes, donc Poutine, entre parenthèses, et j'écris, veut gagner par l'idéologie communiste. Et Superman, en tout cas, Superman russe aussi. Les États-Unis sont un cancer. C'est exactement le genre de mot que Solzhenitsyn utilise pour la Russie. Mais là, c'est pas la Russie, c'est les États-Unis, le cancer. Après, il y a Superman russe qui est invincible. Et ils s'affrontent. Ils s'affrontent les deux clans dans les airs, dans le ciel. Et vraiment, Superman russe, il est vraiment invincible. Et il est à un moment pris au piège. Et l'équilibre cosmique vient équilibrer la guerre et la paix. C'est l'équilibre cosmique, c'est en fait sa copine Wonder Woman qui arrive et puis qui fait sauter l'espèce de prison virtuelle dans laquelle il est pris au piège, et puis bon, bah, tout repart comme s'il pouvait aller cueillir des fleurs, quoi. Et là, bon, ça vient équilibrer la guerre et la paix. Bon, ça va vite, hein, c'est caricatural, hein, les dessins animés en même temps. Et là, le Superman russe. Admiré, a disparu. Il s'est occidentalisé. C'est plus le même. C'est plus le même, et il est incapable de voir la réalité telle qu'elle est, hein, selon les yeux de Warner, tu vois, de cette production américaine. Il voit pas, et puis c'est vrai qu'il est un peu pas naïf, mais il est béat, il est enfant, quoi, il est candide, Superman. Il pense que tout est parfait. Il veut un monde comme il l'imagine. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et donc, il est incapable de voir la vraie réalité. Mais l'Amérique le voit. Les États-Unis, oui. Donc, il est dans son utopie. Donc, il se rend à l'Amérique et à sa démocratie. Non, j'arrête. Et là, États-Unis plus Russie, ils arrivent. Donc, les États-Unis, c'est Lex Luthor. Ils se battent contre le mal. Parce qu'en fait, c'est... Il y a une histoire avant, et c'est une machine. Le mal est une machine. Donc, ils se battent contre une machine. Lex Luthor et Superman. Et le communisme, donc le Batman russe... Le Superman russe, pardon, le communisme, sauve le monde en explosant avec la machine dans l'espace, tu vois. Il prend la machine, parce qu'il est super fort, il aurait pu faire ça depuis très longtemps, et puis... Il prend la machine, il va dans le ciel très très loin, à plusieurs années-lumière, quoi, et il explose avec. Et là, Superman, donc Poutine, s'est sacrifié pour sauver le monde. Dans le dessin animé. Et puis, dans une interprétation qu'on peut en donner. Après, c'est peut-être pas Poutine, c'est pas lui. Pas totalement, en tout cas. C'est l'histoire. Ensuite, donc, la métaphore du communisme pour sauver l'équilibre du monde aux yeux de l'occidentalisation. Américaine. Donc la métaphore du communisme, on parle de Superman, pour sauver l'équilibre du monde, oui, donc c'est le yin et le yang, l'équilibre, aux yeux de l'occidentalisation américaine. Mais c'est pas l'Amérique qui va se sacrifier, hein. C'est la Russie qui doit mourir pour sauver le monde. Tu vois, c'est pas l'Amérique. L'Amérique fera pas ça. Elle va pas se sacrifier, elle. Non. Tu vois, elle va sacrifier son, pas son pire ennemi, mais peut-être en ce moment. Et le pôle américain donc a conçu les États-Unis du monde ensuite. C'est plus les États-Unis d'Amérique. C'est vu que en fait, il prend la place de ce que voulait faire la Russie, l'utopie parfaite dans le monde. Et ben, il prend sa place. Et là, c'est les États-Unis du monde. Et l'humanité est contente. Ouais. Et puis là, Washington, Lex Luthor, il voit, je me retire maintenant, j'ai fait ce que je devais faire, c'est super, on est tous américains, c'est génial. Et on voit dans le public qu'en fait, le Superman russe n'est pas mort. Tintin! Donc après tout ça, moi j'ai pris un papier et j'ai écrit plusieurs trucs entre contraint d'être libre en occidentalisation, liberté, contrainte, totalitarisme. Mais je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est complètement nul ce que j'écris, c'est faux. On n'est pas contraint d'être libre en Occident, on est capable d'être réellement libre, mais en étant contrôlé. Et totalitarisme, j'ai jamais vécu un totalitarisme, donc c'est juste les écrans qui peuvent me dire, et puis des lectures. Mais bon, Solzhenitsyn, je ne fais pas vraiment confiance. J'ai lu bien sûr bien beaucoup, beaucoup d'autres auteurs, mais bon, après, les films, les documentaires, plutôt, bon, ça peut toujours être arrangé, quoi. Bon, on sait quand même que les totalitarismes, c'est horrible, quoi. Corée du Nord, on ne sait pas du tout ce qui se passe, mais ça ne doit pas être la fête du slip, là-bas. Et donc, j'ai fini, en fait, la feuille en écrivant contraint de vivre dans l'illusion. Je trouve ça pas mal. Contraint de vivre dans l'illusion. Et libre d'être soi. Et en fait, ça correspond ni à l'occidentalisation, ni au totalitarisme. Ça correspond à nous, à l'humanité. On est contraint de vivre dans une illusion, dans une société, dans une toile occidentale. Mais où est donc Ornica ? Il est là. On est libre d'être soi. Voilà. Et donc là, j'ai fait une grosse flèche et j'ai écrit « Pas besoin de politique pour mener sa vie. Une vie menée à notre place ou la liberté de vivre dans la contrainte. » Une vie menée à notre place, ça c'est dans l'illusion. Ou la liberté de vivre, mais dans la contrainte. Donc, il n'y a pas de... Après, c'est emprisonné, quoi. Mais je pense, peut-être que les Coréens du Nord, ils sont contents, quoi. Parce qu'ils sont protégés. On sait, non, mais je dis ça, mais en même temps, je pense que je suis pas Coréen du Nord, quoi. Nous, on peut trouver ça horrible pour tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on nous rend par les informations, mais le Coréen du Nord, est-ce qu'il le sait ? Qu'il y a une vie autre ? Que celle qui vit. Bon, je sais pas. Donc là, on vient d'écouter Ping Pong Lied. Donc Ping Pong lié par Stéphane Escher, le premier groupe de Stéphane Escher avec son frangin qu'il faisait en Suisse. Parce qu'il y a eu Donald Trump. Donald Trump, nous sommes aujourd'hui, au jour de l'enregistrement, le 15 juillet 2024. Et apparemment, on lui a tiré dessus. Donc ça vient par rapport à ce que je vous dis. L'Amérique, il emploie les grands moyens peut-être, parce que bon, il s'est fait tirer dessus. Est-ce que c'est vraiment l'œuvre d'un taré comme il est écrit? Parce qu'on nous n'en manquons pas aux États-Unis. Bon, c'est sûr, on en manque partout, hein, des tarés. Mais là-bas, vu que les flingues sont en vente, c'est plus facile. N'importe qui peut en acheter, c'est plus facile. Et puis, donc ça peut être... Ou alors, ça peut être aussi... Ça, c'est pas écrit, mais bon, c'est un peu, peut-être un petit peu sous-entendu. Ça se trouve, c'est fait exprès, enfin, par Trump, en fait. Tu vois, mais il y a eu quand même eu 2 morts, je crois, et des blessés, dont le tueur. Bon. Ça rapproche à des coups de la CIA, ça, hein, pourquoi pas, hein, John Lennon, il est mort aussi, non, il n'est pas mort, il s'est fait arrêter, non, il n'est pas mort. Alors, je le plains quand il va sortir, s'il sort un jour de sa prison. Il est déjà sorti, je ne sais pas trop, je m'en fous un petit peu. En tout cas, le West of France... Les dirigeants du monde entier ont immédiatement... Donc, il se fait tirer dessus Trump, en Pennsylvanie, c'est ça. Et les dirigeants du monde entier ont immédiatement exprimé leur soutien à l'ancien président et candidat à la Maison-Blanche. Donc, ça, c'est politique, parce que, bon, il n'est pas forcément dans les petits papiers de tout le monde. Quand on tire sur un candidat à une élection démocratique, c'est toujours sur la démocratie que l'on tire. Alors ça, c'est Laurent Marchand. C'est Laurent Marchand, en charge de l'international, rédacteur en chef délégué à West of France. Et ça, je pense qu'on lui a demandé d'écrire ça. Quand on tire sur un candidat à une élection démocratique, c'est toujours sur la démocratie que l'on tire. Ou alors, il est vraiment mauvais, quoi. Ouais. À mes yeux, ouais. Parce que c'est manque d'ouverture d'esprit, on croirait Schopenhauer, quoi. Ou alors, c'est un Schopenhauerien et pas du tout un Nietzschéen. En tout cas, bon. Et d'après, j'ai noté... peuple, c'est le peuple, la victime de la presse, en fait, par rapport à tout ce que j'ai pu lire là. Et après, un sénateur proche de Trump a même accusé l'actuel président d'avoir, par sa rhétorique, donc par sa logique, tu vois, induit la tentative d'assassinat. Donc, que Biden aurait projeté la tentative d'assassinat pour pas perdre les prochaines élections. Donc ça, si c'est pas un complot, tu vois, mené avant, tu vois. Ah ouais, donc Trump dit, donc toi tu vas me tirer dessus, mais tu vas pas me toucher, mais par contre tu vas tuer le mec qui va être juste à côté de moi, bon, c'est pas grave, c'est pas moi, donc tu peux le tuer, et puis après toi tu vas mourir. Mais bon, c'est pas grave, vu que c'est pour moi, c'est pour que je me fasse... Bon, ok, bon, d'accord, ok, et puis en même temps, après on dira que c'est de la faute de Biden. Comme ça, les gens, pour l'élection, ils se diront, mais ouais, en plus vu que Biden, il devient moitié sénile, et ben c'est bon, je vais me faire élire aux prochaines élections. Ouais. Donc voilà, c'est une logique, bon, c'est admissible. Hein. Bon, difficile, bien sûr, de définir avec précision l'impact dans les urnes que va avoir cet événement. Habilement, Donald Trump appelait hier à l'unité du peuple américain. Oui. Donc, soit, je ne sais pas ce que ça va donner non plus, ce qui est à redouter, néanmoins, c'est la dynamique que cela déclenche chez les supporters de Trump. Parce que vu que c'est tous des mecs qui ont des flingues dans la ceinture, c'est vrai que ça peut chauffer. Bon, ensuite, la grâce divine, c'est ce qu'il dit de Donald Trump, qui lui a épargné la vie. Ben non. Qui lui a épargné la vie. Ben non, qui lui a sauvé la vie. Oh là là, il est mauvais, Laurent Marchand. Donne un blanc-seing moral à sa croisade contre le mal, autrement dit ses adversaires. Donc apparemment, c'est tout bon pour lui. Mais alors, les Américains, il faut reconnaître qu'ils sont un peu... c'est pas super... Enfin, ouais, c'est peut-être des mecs un peu comme Superman, quoi. Ils voient tout... pas tous les Américains, mais non, faut pas généraliser, non. Mais là, comme il en parle, les élections, bah, je veux dire, c'est pas parce que... En fait, la façon de penser, là, tu vois qu'il y a la différence, parce qu'en France, je ne sais pas, remarque. Mais j'essaie d'imaginer, si on avait tiré sur Jean-Marie Le Pen, ou sur Marine Le Pen, ou Bardella, ou qui que ce soit, Jordan Bardella, si on avait tiré sur ces mecs-là, est-ce qu'on aurait voté pour eux? Là, dit comme ça, moi, je pense pas. Pas plus que... Ça aurait, je veux dire, en tout cas, ça aurait pas changé mes convictions avant, quoi, tu vois. Non. Bon, en tout cas, donc je tourne la page. La radicalisation des mots conduit à celle des actes. Interrogé Dominique Morisi, politologue géopoliticien. Alors, une nouvelle fois aux États-Unis, on tire sur une personnalité politique présidente ou candidate. C'est un phénomène qui va au-delà des États-Unis, dit-il, Dominique. On peut effectivement replacer l'événement dans un contexte américain. John Fitzgerald Kennedy, en 1963, donc il était encore vivant, hein, on l'a vu dans le dessin animé Red Son, fils rouge, Superman russe, ou Robert Kennedy en 68, tués tous les deux. Ronald Reagan, très grièvement blessé en 1981, mais le contexte est en réalité mondial. Récemment, il y a eu une tentative d'assassinat du Premier ministre en Slovaquie, qui a été très grièvement blessé. Au Japon, l'ancien Premier ministre japonais, ça fait plusieurs années déjà, Shinzo Abe, a été assassiné dans un pays où ce type d'attaque n'arrive jamais, ce qui est juste, mais c'était peut-être aussi la CIA. On ne sait pas. C'est juste des suppositions, c'est juste pour... pour fouetter le sang, quoi. Donc, et alors là, la question, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Alors, il y a une radicalisation des mots qui conduit à celle des actes. C'est vrai. Les mots, les définitions des mots sont un peu arrangées selon chacun. Avec une polarisation grandissante des sociétés. On assiste à la radicalisation grandissante des oppositions politiques. Et la preuve aux dernières législatives en France, c'était les deux gros pôles, quoi. C'était... ou le gros pôle gauche, ou l'extrême droite. C'est radical, quoi. C'est ou l'un ou l'autre, et il n'y a plus d'entre deux. Pour l'instant, on ne parlait pas des présidentielles, mais bon, ça fait toujours un peu les boules, la radicalisation. En tout cas, on assiste à la radicalisation grandissante des oppositions politiques. Les réseaux sociaux joue un rôle très négatif en favorisant l'appel à la haine. Ouais, exactement. Parce que les extrémismes, c'est l'un comme l'autre. Ils promettent des choses, mais qui sont pas forcément possibles. Et on n'a jamais vu ça possible, quoi. Après, on n'a jamais eu d'extrême au gouvernement français. Donc, on ne sait pas, mais... Je sais absolument pas, en fait. J'ai toujours soutenu le truc en France, c'était pas possible, parce que c'était bicéphale avec le Parlement et le président. Je me suis toujours dit qu'il y avait une opposition. Là, il a un droit de veto, le président de la République. Sauf si le président de la République devient extrême. Un extrémiste, de gauche ou de droite. Là... si son parlement, si c'est la majorité absolue ou la majorité. Ouais. Alors là, et c'est marrant parce que le mec, là, Dominique Moisy, il a écrit des bouquins. Il a aussi des séries télévisées, notamment américaines, qui participent à ce phénomène, le phénomène d'incitation à la haine. J'avais écrit un livre, dit Dominique Moisy, il y a plus de 8 ans de cela, qui s'appelait La géopolitique des séries télévisées ou Le triomphe de la peur. Édition Flammarion, il doit être excellent ce bouquin. Je crois que je l'ai vu, mais je ne l'ai pas acheté même. Bon, bref, j'ai consacré un chapitre sur la série House of Cards, qui est d'ailleurs une série géniale, dans sa version américaine. Pour moi, le personnage du président Underwood, le héros interprété par Kevin Spacey, préparait les Américains à la candidature de Donald Trump. D'ailleurs, ce Frank Underwood subit un attentat dans la série, auquel il réchappe, ce qui le rend à nouveau populaire, dit le journaliste. On ne sait plus si c'est la réalité qui précède la fiction ou si c'est l'inverse. Les deux sont tellement liés désormais. La réalité et la fiction. Ce qui se passe au Moyen-Orient et à Gaza actuellement fait penser à la série israélienne Fauda. J'en avais parlé aussi à l'écran des Crusses. Mais c'était vachement américanisé, quoi. C'était côté juif, c'est nous les plus forts. Mais après, Je ne vais pas prendre un côté plus qu'un autre. Bon, bref, quand on voit l'assassinat d'un scientifique en iranien en 2000. Donc là, et après, à quoi répond la radicalisation des discours politiques? Dans un monde toujours plus complexe, il y a volonté de simplifier, par exemple. L'électeur simplifie en se ralliant à une personnalité extrême. C'est le cas pour ceux de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Où on peut avoir la tentation de simplifier en supprimant la personnalité opposée, d'être l'agent simplificateur face à ce monde très compliqué. Mais le mec qui a tiré sur Ouais, donc là encore, tu vois, c'est un peu une boutade peut-être de dire ça. Parce que le mec qui a tiré sur Trump, c'est difficilement probable que ce soit un. Enfin, c'est possible, bien sûr, parce qu'il y a des fous, mais c'est pas du tout dans la politique de Biden de tirer sur les autres, quoi. Tu vois? C'est. Bon. Donc là, c'est sûrement un mec de Biden qui a voulu tirer sur Biden, mais Biden savait que tu ne l'allais pas le tuer, il avait un gilet pare-balles, tu vois. Mais maybe, I don't know. Yeah, I don't know. Et ensuite, aux États-Unis, les électeurs républicains et démocrates n'arrivent plus à se parler. Cette incapacité à dire. Alors, ça, est-ce que c'est vrai? Moi, c'est faux. Regarde, aux États-Unis, les électeurs républicains et démocrates n'arrivent plus à se parler. Cette incapacité à dialoguer existe aussi en France. C'est faux. Moi, je peux très bien discuter avec un mec de d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça enlève. Il y a une évolution de nos sociétés démocratiques extraordinairement négative. On doit avoir une réflexion sur le caractère inacceptable de la montée de la violence dans nos sociétés. Et là, par cette réponse, je vois qu'il y a un évitement de la part de Dominique Moïsi. Mais qu'est-ce qui empêche de discuter avec, et même de rire, avec un mec d'extrême droite ou un mec d'extrême gauche? Bah, y a rien. Si le mec est marrant, bah, c'est marrant, quoi. Après, ça t'engage à rien de te fendre la gueule. Mais ça engage, si après, par contre, il peut y avoir une suite où ça peut déboîter sur des responsabilités violentes, quoi. Mais il n'est pas question de ça. La révolution intérieure n'a rien à voir avec les manipulations occidentales ou le totalitarisme de quelconque idéologie. La révolution intérieure n'a rien de politique. En revanche, la politique, cette dernière, en revanche, elle craint notre supériorité, la supériorité intérieure. Le fait qu'on a de pouvoir se dépasser et par là dépasser le reste. Juste intérieurement. Sans faire comme en Russie, ça s'est passé, la révolution de 1917 par exemple, lorsque leur travail idéologique du communisme s'est rempli administrativement, on peut dire, et a rendu l'idéologie concrète. Mais. Concrète, pas vraiment, quoi. Il leur a rendu leur idéologie au pouvoir. Mais c'est pas bon, ça non plus. C'est pour cette raison qu'elle fait de nous des individus lambda interchangeables, la société. Afin que justement, la révolution intérieure que chacun pourrait faire en soi afin d'être libre, tout simplement, et voir les choses d'un œil souriant, bah, c'est pas possible. On est tous à des. Non, toi t'es comme ça, et puis en fait t'es là, t'es pareil. La vie, sous le totalitarisme ou sous l'occidentalisation, ou dans une fosse, dénierait alors donc l'humain de sa liberté. Alors qu'il suffit de se poser des questions. Pour ne pas se suicider, par exemple, on va à l'extrême, on caricature un petit peu, peut-être, pas forcément, le suicide c'est quand même un terme qui n'a pas de caricature, et accepter le sort qui est jeté. Si on se pose des questions, bah, la révolution intérieure est une idée trouvée du destin. Satan que ça bascule sur le rocking chair, le blues de la vache. Wah wah. Et à 14h,
les hommes ils m'écoutent et ma paix s'en route. Sur la balle je pousse. One, 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 one,